Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens ?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaire qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
Tournée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme le...
Des centaines de groupes relaient ces appels à manifester contre le pass sanitaire sur les réseaux sociaux. Leur mot d'ordre, la défense des libertés individuelles et un rejet de la politique d'Emmanuel Macron. À deux jours de l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire élargi pour les adultes, un autre sujet cristallise déjà la colère des manifestants. C'est la question de l'extension de ce pass sanitaire aux enfants dès l'âge de 12 ans le 30 septembre prochain.
Salut l'équipe!
Salut Léna!
Salut Léna!
Alizé, n'hésite surtout pas à dire bonjour. Hein.
Oh, pardon, désolée Léna, j'étais sur Facebook. Vous avez vu le nombre de groupes anti-pass qu'on trouve sur les réseaux?
Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est à partir des réseaux sociaux que les manifestations s'organisent aujourd'hui.
Vous pensez qu'un jour, Facebook pourrait servir à analyser les mobilisations?
Mais c'est déjà le cas.
Bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la saison 2 du podcast Révolution numérique, le podcast de Sciences Po Ex.
Aujourd'hui, je suis avec Léna, Alizé et Charles, et on va vous parler des réseaux sociaux, mais surtout de comment ils peuvent servir à analyser les mobilisations. Groupes, posts, tweets ou encore commentaires constituent un nouveau corpus, ou en d'autres termes, un ensemble de données. À partir de celui-ci, les chercheurs en sciences sociales peuvent analyser comment et pourquoi les antipass sanitaires, par exemple, se mobilisent. Il faut souligner que cette méthodologie est encore en cours d'expérimentation, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode.
Mais comment font les chercheurs? Qu'est-ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas un outil qui est pourtant utilisé majoritairement par les jeunes?
Patience, je vais tout expliquer.
Eh ben vas-y, je t'écoute.
Non mais c'est très simple. En gros, les chercheurs, ils utilisent les réseaux sociaux pour comprendre comment les groupes de mobilisation, par exemple les mobilisations contre le pass sanitaire, s'organisent via des expériences empiriques quantifiées ou qualitatives. Ils vont aller chercher des informations sur les comptes Facebook, ou ils vont encore lire et analyser les profils Twitter ou encore les chaînes YouTube, les commentaires, etc.
Oui, d'accord, mais pourquoi analyser les réseaux sociaux et pas les manifestations organisées dans les rues? Ça paraît plus simple et plus concret, non?
Mais il faut bien comprendre que les réseaux sociaux constituent des modes d'expression à grande échelle. Grâce à ces plateformes sur lesquelles les manifestants échangent et s'organisent, le chercheur en question peut alors saisir la population mobilisée dans son ensemble pour analyser ses revendications.
Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que les chercheurs vont trouver au juste sur les réseaux sociaux?
Ça dépend. Par exemple, pour le mouvement anti-pass sanitaire, les manifestants utilisent les réseaux sociaux pour faire signer des pétitions, partager des slogans ou des codes vestimentaires par exemple. Ils créent des pages Facebook dans chaque région de France sur lesquelles ils relaient des informations sur les manifestations à venir. En gros, ils se racontent, se filment en direct et parlent à des milliers d'utilisateurs déposant à leur tour des questions et des commentaires. Ça s'appelle faire du web dans la rue, concept fondé par des chercheurs du Centre de Recherche Politique dont Diego Antolinos Basso, Frédéric Cassor ou encore Flora Chambril.
Ok, donc si j'ai bien compris, ils s'approprient les plateformes numériques pour identifier les lieux de mobilisation, témoigner et trouver des personnes qui partagent les mêmes revendications qu'eux.
Oui, c'est exactement ça.
Mais ce dont vous parlez depuis 2 heures là, c'est des big data, non? Ah mais oui, t'as raison, la dernière fois j'ai lu un texte de Gilles Bastin et Paola Tubaro et ils expliquaient justement ce que c'était les big data.
Eh ben Clara, nous laisse pas sur notre faim, explique-nous tout ça.
Alors, Big Data, c'est bien évidemment un terme qui est issu de l'anglais, mais ça recouvre plusieurs dimensions. Dans la communauté scientifique, le premier à l'utiliser serait Francis Diebold. Il voulait un terme qui montre que cette révolution était à la fois qualitative, c'est-à-dire dans le type d'informations recueillies, et quantitative. On accède tout d'un coup à un nombre incommensurable de données.
Oui, d'accord, mais ça me dit toujours pas ce que ça veut dire.
Alors, moi j'avais vu que la définition qui est souvent donnée, c'est que la caractéristique des big data, c'est qu'elles demandent de nouvelles techniques de traitement et de stockage qu'on n'a pas encore.
Tout à fait. C'est pour ça que Doug Lanet parle dès 2001 des 3 V des big data, pour volume, variété et vélocité de captation.
Oui, enfin, tous les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord sur la définition. D'ailleurs, on a eu l'occasion de discuter avec Étienne Ollion, chercheur en sciences sociales au CNRS, qui réfute le terme de big data au profit de la notion de données numériques. Écoutons-le.
Le terme de big data, pour moi, il n'est pas particulièrement pertinent. Il relève un peu d'un slogan, un peu d'un élément un peu commercial de gens qui ont voulu mettre en avant la nouveauté de ce qu'ils étaient en train de faire. Je crois que surtout ce qu'il marque, c'est le terme marqué d'une période. Et cette période, c'est cette fin des années 2000 où on a vu augmenter très massivement les données numériques. L'avantage d'utiliser le terme de données numériques, c'est que justement, on a quelque chose qui est relativement simple, puisque des données, c'est quoi ? C'est simplement une série d'éléments qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Et numérique, ça insiste sur le fait que on a des informations qui sont à la fois des textes, des fichiers, des photos, des sons, des images, des films. Et donc, tous ces éléments-là, leur point commun, à travers leur très grande diversité, qu'elles sont encodées en 1 et en 0. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir qu'elles sont encodées en 1 et en 0 ? Principalement parce que ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser avec un ordinateur, on va pouvoir les collecter avec un ordinateur, les manipuler, les transformer et les analyser. Et donc, à partir de compétences, pas forcément quantitatives, mais de compétences en informatique, on va être capable de s'approprier ces informations-là et d'en faire ensuite une analyse pour faire ensuite soit du commerce, soit de la science, soit de la politique, etc.
Bon, ok, on a bien compris ce que c'était que les big data, mais c'est quoi concrètement l'intérêt de cette approche ?
Attends, et bien justement, Étienne Ollion nous a aussi expliqué l'intérêt multiple de ces données numériques.
Donc vous avez des données qui sont abondantes, parfois riches, et à partir desquelles on peut revenir et remener l'enquête. Et ça, c'est intéressant. Ça permet donc de faire deux choses. Ça permet de poser des nouvelles questions sur des domaines de la vie qui étaient assez peu explorés jusqu'à présent, parce que ça n'existait pas. Donc, typiquement, on peut analyser la vie sur les réseaux sociaux, la vie sur les sites de rencontres, la vie sur des forums, etc. Et puis, ça permet aussi de reposer d'anciennes questions, mais avec de nouvelles méthodes, parce que on n'aura pas forcément les biais habituels qu'on peut avoir.
Mais du coup, concrètement, si on veut analyser les mobilisations anti-pass qui sont là tous les samedi, comment on fait ?
Justement, Charles, tu parlais tout à l'heure des Gilets jaunes. Et nous, on a eu l'occasion de s'entretenir avec Natacha Souillard, qui est une chercheuse aussi et qui a étudié le mouvement des Gilets jaunes avec 6 autres collègues, chercheurs en sciences sociales. Elle nous a raconté comment est-ce qu'ils avaient utilisé et analysé les données récupérées sur les réseaux sociaux numériques. Je vous propose qu'on l'écoute.
Comment on procède ? On procède par extraction pour la presse depuis la base de données Europresse, en choisissant des bornes chronologiques, en choisissant des mots-clés, gilets jaunes par exemple. Pour Twitter, une extraction pareille par mot-clé à partir de l'API de Twitter. Et puis pour Facebook, on a procédé en choisissant en fait des groupes et en extrayant les posts et les commentaires sur ces groupes. Les textes, on va les analyser statistiquement. Et pour ça, on a utilisé un logiciel. Et ce logiciel, il va permettre de faire un certain nombre de regroupements sur les textes. Et du coup, nous, derrière, avec cette classification, on peut interpréter. On voit le lexique et on dit à quelle thématique ça fait référence ? Comment je peux comprendre ce lexique-là ? Quel sens j'y mets ? Et comment, avec les théories de recherche, etc., je viens interpréter cette analyse statistique. Sur Twitter, on en a utilisé une autre. Et c'est une analyse de communauté. C'est sur les retweets. Les comptes qui sont souvent retweetés, qui se retweetent souvent les uns les autres. Et ça permet de dessiner un graphe de communauté qu'on va pouvoir interpréter en fonction d'affinités politiques, personnelles, etc. Là, après, c'est en fonction du contexte, en fonction des hypothèses et puis de l'analyse qualitative aussi de ce que sont les comptes, etc.
Le truc c'est qu'elle est plus jolie et ça ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Dominique elle ment, car c'est tentant de leur montrer même si c'est pas vrai.
Mais du coup cette analyse elle a bien des limites non? Personnellement quand je partage un post ça veut pas forcément dire que je suis d'accord, comme Dominique dans la chanson d'Angèle.
C'est le problème quand on parle de données brutes. C'est un oxymore. Il n'y a jamais de données brutes. Quand on travaille sur les données, on fait comme si elles avaient toujours raison. Et on ne va pas se poser la question de leur provenance. Alors qu'elles ont un lourd passé, car elles sont collectées, mises en forme, agrégées et passées dans un algorithme. Elles sont toujours construites.
Mais du coup, ça montre bien que les chercheurs sont confrontés à plusieurs obstacles quand ils étudient les données numériques.
Je pense que les mieux placés pour nous en parler, c'est les chercheurs, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez parlé avec Natacha Souillard, par exemple, ne vous a-t-elle pas fait part des difficultés qu'elle avait pu rencontrer ?
Si, tu as raison, Alizée. Elle nous a expliqué que c'était pas toujours évident pour les chercheurs d'accéder aux données dont ils ont besoin.
Le principal obstacle qu'on a eu et qu'on continue à avoir, c'est la difficulté d'accéder à ces contenus-là, parce qu'on a affaire à des plateformes qui sont privées. Et les chercheurs, ils n'ont pas forcément facilement accès à ces choses-là. Donc pour Facebook, c'est extrêmement compliqué. Et je connais aussi des doctorants qui sont obligés de créer des partenariats qui sont assez lourds avec Facebook pour pouvoir disposer des données dont ils ont besoin pour leur thèse. Alors Facebook a un peu, comment on va dire, un petit peu ouvert la soupape, mais on n'a pas le droit de s'intéresser à toutes les thématiques de recherche. On n'accède pas non plus à tout. On ne peut pas dire qu'on a extrait tout. Il y a une grosse opacité au niveau des plateformes, et notamment Facebook, qui constitue un biais hein, par rapport aussi aux extrapolations de ce qu'on peut en faire. On accède à certaines choses, pas à toutes. Sur les limites, il y en a une qui est majeure, hein, c'est qu'on n'a pas interrogé les Gilets jaunes. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Nous, on s'est intéressé à ce qu'ils disaient ou ce qu'en disaient la presse ou les autres, mais on ne leur a pas demandé. On n'a pas fait d'entretien, on n'a pas fait d'enquête de terrain sur les ronds-points, ni sur les mobilisations, ce qui est bien sûr une limite et un choix. Hein. D'autres chercheurs l'ont fait et ont privilégié ces axes-là. Mais donc, du coup, on ne peut pas construire de réflexion ou apporter des choses par rapport aux pratiques et aux usages tels que les acteurs du mouvement vont pouvoir en parler. On ne peut pas opposer le monde numérique et le monde physique. Il y a une interconnexion, il y a des utilisations qui en sont faites. Il y a des distinctions, il y a aussi des spécificités, bien sûr, par rapport aux dispositifs sociotechniques. On ne peut pas faire ce qu'on veut et pas sur n'importe quelle plateforme, etc. Mais diviser les deux, ça ne nous permet pas de saisir la richesse des mouvements dans toute leur complexité. Il n'y a pas des mobilisations qui sont exclusivement en ligne, des mobilisations qui sont exclusivement hors ligne. Elles sont, dans la plupart des cas, en ligne et hors ligne. Et le numérique instrumente, mais ne remplace pas le physique, etc.
Pour revenir sur les limites auxquelles sont confrontés les chercheurs, Étienne Lyon nous a aussi fait part de deux points intéressants. Écoutons-le.
Ces données numériques, elles présentent une série de difficultés qui font qu'elles ne viennent pas immédiatement et totalement remplacer nos anciennes méthodes. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. L'exemple premier, si vous voulez, c'est la question de l'intérêt même de ces données. C'est-à-dire que j'ai cité plein de cas où ça peut être intéressant. Mais vous pouvez tout à fait avoir des données numériques qui sont abondantes sur un sujet et qui n'ont qu'un intérêt extrêmement limité pour la science. On a à l'heure actuelle beaucoup, beaucoup plus de données, ça c'est clair, hein, je le vois bien. Mais ce n'est pas parce qu'on a beaucoup plus de données que ces données sont nécessairement représentatives ou plus représentatives de la population qu'on cherche à étudier.
Écoute. Je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Notre conseil n'est autre que la mini-série « L'effet domino » qui est disponible sur la plateforme d'Arte. C'est une série documentaire qui nous raconte, en 4 épisodes, l'histoire de quatre personnes dont la vie a été bouleversée à la suite d'un post sur les réseaux sociaux.
Ah oui, je l'ai vu aussi. Une chose est sûre, c'est que cette mini-série vous fera réfléchir sur votre comportement en ligne.
On vous met le lien dans la description.
Et si vous préférez la lecture, Étienne Olion nous a recommandé un article de Nicolas Selnick, publié dans Libération fin novembre, et intitulé « Pour la recherche, le big data ». On vous mettra aussi le lien en description de l'épisode.
Ainsi, l'utilisation des réseaux sociaux numériques pour analyser les mobilisations n'en est encore qu'à ses débuts. Mais cet épisode nous a montré que c'était de plus en plus mobilisé par les chercheurs pour analyser non seulement les mobilisations, comme on a dit, mais aussi d'autres types de mouvements sociaux.
Il reste bien évidemment des limites que les chercheurs seront amenés à surmonter dans les années à venir.
Ce qui est indéniable, et c'est justement ce que nous ont rappelé les chercheurs, c'est que cette analyse de les données numériques, ici les réseaux sociaux, ne pourra pas remplacer l'enquête de terrain.
Affaire à suivre donc. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes de ce podcast réalisé par nos camarades. Pensez aussi à jeter un œil à la saison 1 sur le mouvement Black Lives Matter. On vous laisse avec la douce voix d'Angèle. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me.